Qui désire répondre à cette question? Mais y a-t-il vraiment des laissés pour compte? Parce que c'est vrai que les places, s'il y a 1% de personnes avec un trouble autistique dans la population, ça concerne Genève aussi. Donc ça veut dire que la population est importante. Que deviennent toutes ces personnes qui ne sont pas dans vos centres avec vos places, certes généreuses, mais limitées?
Bah, au niveau des traitements, moi je dois à nouveau préciser, en principe, à l'UPDM, il ne faudrait que travailler avec les adultes. En effet, ce n'est pas complètement vrai, parce qu'en cas de situation grave, nous sommes dans l'obligation d'ouvrir nos portes même à des personnes extrêmement jeunes. Ce qui n'est pas l'idéal parce que une fois j'ai dû hospitaliser une enfant de 8 ans, c'était le cas plus jeune, puis j'ai eu une hospitalisation d'une jeune fille de 12. Il y a par contre des cas qui commencent à nous arriver vers les 14, c'est rare, mais 16 ça nous arrive et sont les cas plus graves auxquels nous faisons face avec les moyens de bord, qui ne sont pas mauvais, mais avec un problème certain d'intégration au niveau socio-éducatif parce qu'on n'a pas le répondant institutionnel pour ces cas-là, jeunes et très graves. Parce que, voilà, parce qu'il y a un vrai problème. Les institutions qui sont nos partenaires habituels sont des institutions pour adultes à partir de 18 ans. Donc on jongle. On joue à la montre pour les caser ensuite. Et là, il y a un problème. Puis il y a par contre, sûrement un problème plus subtil pour les adolescents avec troubles du spectre, mais sans un retard important. Et là, en ambulatoire, on peut faire quelque chose, mais c'est vrai que c'est vraiment un âge difficile, celle-là, qui est avant les 18 ans. Mais si tu veux dire quelque chose, ça pourrait m'aider sûrement.
Il y a vraiment eu pendant longtemps un déficit dans le réseau mineur pour ce type de jeunes, clairement. D'ailleurs, je suis extrêmement reconnaissant à l'équipe de Galil ou d'autres d'avoir accueilli par moments ces jeunes. Je pense qu'il y a aussi dans le dispositif hospitalier un déficit. C'est pour ça que finalement, ils revenaient vers toi, toujours. On a essayé de différencier et d'équiper des institutions pour permettre de contenir ces jeunes ados qui ont des troubles très graves, souvent avec des troubles du comportement très graves, et pouvoir les garder dans des écoles spéciales, quoi qu'il advienne, quels que soient leurs problèmes, quels que soient les facteurs précipitants, les facteurs de crise qui sont parfois aussi extérieurs, qui peuvent décompenser ces jeunes. Et là, on a finalement été vers les adultes, et notamment Pilar et un certain nombre d'institutions qui avaient fait face, s'étaient équipées, avaient appris à travailler avec ces jeunes. Et je pense que pour la deuxième année maintenant, cette institution est en fonctionnement et on commence à faire mieux. Et je crois qu'on a vécu une deuxième année, et pour l'équipe et pour les jeunes, un peu plus facile que la première année. Voilà, donc je crois qu'on en est là dans l'histoire. Donc on est progressivement en train de boucher les mailles du filet, les trous, et il faudra encore du travail, il faudra encore s'améliorer. Donc voilà où on en est pour répondre à ta question. Pour ce qui est des adultes, excuse-moi, pour ce qui est des jeunes qui ont un haut potentiel et qui ont des problèmes liés à des troubles du spectre autistique, je crois qu'aujourd'hui, ce qui nous manque dans le dispositif, c'est aussi une capacité du milieu ordinaire, école, post-obligatoire ou apprentissage, etc., à pouvoir contenir ces jeunes. Et je crois que là, j'ai fait une allusion, mais c'est quelque chose qu'on est en préparation, donc je ne veux pas encore l'amener. Mais clairement, ça, c'est un des axes dans lesquels on doit pouvoir travailler. Équiper l'environnement ordinaire, lui donner les moyens pour comprendre et accompagner ces jeunes où qu'ils soient. En tout cas, pour les mineurs, c'est un travail qui reste à faire et c'est un travail qui s'est engagé.
S'il n'y a pas, j'en profite. Donc, vous parliez, monsieur Lederac, du fait que vous étiez finalement opposé sur le plan des principes, hein, j'imagine, à un pôle autisme. J'ai bien compris la philosophie dans laquelle s'inscrit votre fondation, mais il me vient une question hein, qui peut être triviale, mais on sait maintenant ce n'est pas très grave. Mais comment est-il possible finalement pour les éducateurs qui sont sur le terrain, les psychologues, les enseignants qui travaillent chez vous, de pouvoir véritablement mettre en place quelque chose de très structuré dont nos enfants ont besoin, de pouvoir concilier finalement la spécificité qui est liée à leur style cognitif avec d'autres enfants qui n'ont pas forcément les mêmes besoins, surtout sur le plan social? Est-ce que c'est... en ne créant pas finalement un pôle autisme, ce que moi j'appelle pôle autisme, c'est une concentration finalement de compétences dans le domaine autistique à un moment donné dans une institution, hein, ce qui ne veut pas dire que ça ne peut pas cohabiter avec d'autres personnes qui ont d'autres types de handicap. Est-ce que vous ne rendez pas plus difficile la tâche finalement des professionnels qui travaillent chez vous? Est-ce que vous ne croyez pas qu'on y gagnerait finalement s'il y avait un centre spécialisé où finalement tous les collègues puissent, lorsqu'ils se parlent, comprendre, parce que autant nos enfants ont un style cognitif très particulier, autant les moyens qui doivent être adaptés à leur style cognitif particulier engagent les professionnels à se former à ça. Donc c'est une curiosité concrète.
Non, mais l'image que j'utilise est en effet poussée et provocatrice. Je suis très réticent, en effet, aux catégorisations extrêmes avec l'institution autiste, l'institution épileptique, l'institution, etc. Ce qui ne veut bien entendu pas dire qu'à l'intérieur de chaque institution, on se doit de développer, alors appelons des sous-pôles ou des secteurs. Maintenant, rendre la tâche plus difficile, je crois que notre tâche elle n'est pas amenée à être facile. Enfin, le rôle d'un éducateur, d'un professionnel et d'une direction, c'est de ne pas chercher la facilité, mais de répondre à des besoins et de les reposer sur des missions et des valeurs. Donc l'approche structurée, l'approche sensorimotrice, l'approche globale, si elle est valable, et on le voit pour l'enfant, l'adolescent et l'adulte autiste, elle est aussi valable pour d'autres typologies, pour d'autres enfants qui ont des difficultés dans leur schéma corporel. Une approche orientée teach est tout autant utile et intéressante. Donc ça, c'est un premier intérêt de travailler quand même sur une mixité. Et puis le deuxième intérêt, c'est de ne pas trop stigmatiser non plus et de ne pas non plus trop, à l'inverse, hein, mais c'est un a priori que je porte, de ne pas non plus trop surcharger des équipes dans une seule thématique. Une équipe, et on l'a vu notamment dans une de nos institutions où on avait vraiment un secteur fermé avec des jeunes adultes très compliqués, on a très rapidement vu la limite institutionnelle de pouvoir travailler de manière équilibrée. C'est à partir du moment où on a commencé à ouvrir les murs de ce secteur et à travailler de manière beaucoup plus interactive avec l'ensemble des professionnels qu'on a pu trouver de meilleures solutions. Mais en effet, ce travail n'est pas facile, il est très compliqué, c'est un parti pris, nous devons accompagner les professionnels en termes de moyens, en termes de formation, en termes de connaissances, en termes de passerelles avec des partenaires.
Une question qui me vient finalement quand je regarde l'Assemblée et je me pose cette question-là aussi, c'est voilà, qu'est-ce qui fait que cet après-midi il y a moins de questions et que le débat semble peut-être un peu moins passionné que ce matin? Est-ce que c'est parce que c'est 5 heures le soir et qu'on est samedi seulement, ou est-ce que c'est parce que pour les adultes il y a moins de problèmes que pour les enfants? Pourquoi ce matin c'était si polarisé et que tout le monde voulait poser des questions? Et pourquoi est-ce que maintenant il y a une forme finalement de lâcher prise?
Oui, j'ai lâché prise. Bonsoir, je suis la mère d'une jeune femme de 40 ans atteinte d'autisme. Et ce matin, c'est vrai que j'avais envie de prendre la parole. Comme on vous l'a fait remarquer, vos yeux n'allaient pas jusqu'en haut, j'étais à cette place. Et je me suis un peu tassée.
Pourquoi?
Oh, parce que ma fille a 40 ans, j'ai l'impression d'être un peu un dinosaure dans cette assemblée. Je pense qu'il y a beaucoup de parents de jeunes enfants. Mais ce matin, je voulais justement dire que l'approche psychodynamique n'avait pas besoin d'être encouragée parce qu'elle l'est suffisamment dans toute l'Europe. Et j'avais envie vraiment d'encourager l'approche psychodéveloppementale, cognitivo-développementale. Ce que j'ai vu cet après-midi me rassure pour les trois quarts des intervenants, même si avec ces personnes de plus de... d'un certain âge, je dirais, certaines techniques comme le teach, comme des approches très structurées, on peut arriver à de petits progrès, on peut augmenter l'autonomie de ces personnes, j'en suis vraiment rassurée, et j'aimerais féliciter ces intervenants qui donnent de l'espoir encore à des parents de mon âge, avec des enfants de l'âge de ma fille. Et je vous en remercie et j'espère pouvoir en profiter bientôt.
Il y a effectivement, il semble, un consensus qui est beaucoup plus grand sur la table de cet après-midi comparé à la table de ce matin. Et ça peut expliquer effectivement peut-être pourquoi finalement la discussion n'est pas aussi enflammée et passionnée. Mais c'est quand même intéressant. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas apparemment de problème chez les adultes alors qu'il en reste autant chez les enfants ?
Peut-être, je vais essayer de répondre à cette question. Le débat est certes beaucoup moins passionné chez les adultes parce que les parents ont une forme de résignation. Vous parlez de problèmes, mais nous on parle peut-être de situation. C'est-à-dire, j'ai beaucoup aimé l'intervention de la personne ce matin qui a parlé de formation. Je suis jeune, je viens de sortir de la formation également. J'ai jamais parlé, très peu entendu parler d'autisme dans ma formation. C'est une réalité auquel on est confronté au quotidien. Malgré qu'on présente une volonté d'aller dans des méthodes teach, ABA, cognitive ou comportementaliste ou neurocognitive, les possibilités de formation en Suisse restent extrêmement faibles. Ça, c'est la réalité. Alors, il y a des institutions qui ont fait un énorme effort de formation, notamment les EPI qui ont envoyé beaucoup de personnes en formation dans la seule formation universitaire en Suisse. Maintenant, un enjeu majeur peut-être pour les années à venir dans l'autisme, dans le domaine de l'adulte ou de l'enfance, serait de créer des pôles de formation forts à Genève ou en tout cas proches de Genève, parce que la demande est là en tout cas. C'est un des enjeux dans lequel nous on va se lancer prochainement avec des partenaires européens finalement.
Merci. Quelqu'un d'autre désire réagir à cette observation?
Il y a aussi une différente population. Hein. C'est-à-dire que les adultes qui ont un trouble du spectre autistique, ils sont des adultes avec un trouble du spectre autistique. Par contre, et ça, les personnes qui travaillent en pédopsie sont sûrement plus formées et capables d'expliquer que moi. La population infantile ou très jeune a un spectre beaucoup plus large et l'application du cognitivo-comportemental et de manière plus spécifique du teach n'est pas tout à fait l'idéal pour tout le monde parce qu'il y a une plasticité beaucoup plus importante. Donc c'est vrai que une approche psychodynamique peut être la solution pour un certain nombre de cas et il n'est pas la solution pour d'autres, mais c'est pas si facile que ça décider quand on switch d'une prise en soin psychodynamique à une prise en soin plus cognitivo-comportementale ou structurante comme le teach. Mais moi, j'aimerais que quelqu'un qui fait ce métier, parce que moi j'en fais une autre, puisse en parler. Donc il y a effectivement une fluctuation plus large dans la population infantile, ce qui peut provoquer même des polémiques d'école. Mais c'est parce que la population, elle est différente. Nous avons affaire, grosso modo, je coupe vraiment comme ça, hein, dans le fromage, comme on dit. Nous, les gens qui travaillent avec les adultes, nous avons affaire avec le 30% de la population qui est suivie par les pédopsychiatres. Et c'est la population qui a des certains besoins, à part notre 20% spécial, tout différent, des gens avec, sans trouble, sans problème cognitif, mais avec des troubles autistiques. Donc, c'est pas... Disons que le travail des pédopsies, il est plus ambigu.
Alors, j'aimerais juste réagir à ce que vous dites, parce que c'est important. Lorsque j'apprends, par exemple, à mon enfant à développer un moyen de communication, ce qui est essentiel, parce que communiquer, c'est ce qui est difficile pour lui, et que je lui fournis ces outils de communication, et qu'ensuite il grandit, puis il passe à une autre institution où ils ne connaissent pas ces outils de communication. Est-ce que vous ne croyez pas que dans la tête de mon enfant, c'est pas difficile? C'est comme si vous enleviez d'une manière brutale la canne blanche à une personne qui est aveugle. C'est comme ça que je le ressens. Mais ce n'est pas parce que je suis maman que je le ressens comme ça, c'est parce que c'est comme ça que je le vois chez mon enfant. Donc si on développe, parce qu'on pense que c'est juste de l'avoir développé avec des... approches telles que Teach, PEX, etc., des moyens de communication très concrètes, j'aimerais bien en tant que maman que ces moyens puissent perdurer la vie durant de mon enfant, s'il en a besoin évidemment, mais c'est une béquille pour lui, donc il en a besoin, parce que c'est véritablement un moyen de communication pour lui. Et donc j'aimerais bien pouvoir assurer cette continuité de la petite enfance à l'âge adulte, et c'est, je pense, un peu le mot-clé hein, de cette journée exceptionnelle que nous avons vécue aujourd'hui, parce que tout le monde a été réuni, des représentants d'organismes publics de la petite enfance et vous qui représentez le monde des adolescents et des adultes. Mais c'était aussi pour donner ce message. C'est que si vous n'avez pas opté pour l'approche psychodynamique et que vous avez donné des moyens de communication qui sont développés dans d'autres approches, eh bien garantissons à ces enfants qui sont habités à ces moyens de communication une continuité. De la petite enfance à l'âge adulte. Voilà, c'était un petit peu ce que je vis en tant que maman. Et j'ai peur des ruptures pour mon enfant. Je ne sais pas maintenant s'il y avait d'autres questions, mais puisque j'ai le micro et...
Vous avez une question au fond, non ?
Presque à la fin, et puis...
Non. Ouais. Oui, il y a une question ici.
D'accord. Et puis après,
je... Attendez que le micro arrive, ça va être plus simple. Ici. Ouais. Madame, non.